La matinale, invité.
Les pesticides ont la vie dure dans le miel, c'est ce qu'ont observé des chercheurs de l'université de Neuchâtel avec leurs collègues du jardin botanique. Ils ont mis au point une nouvelle technique pour détecter les traces de néonicotinoïdes dans le miel.
Gaëtan Glauser, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur principal de l'étude et le responsable de la plateforme neuchâteloise de chimie analytique de l'université de Neuchâtel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Cette étude vient compléter une étude qui a fait grand bruit en 2017, qui était parue dans la revue Science. Là, la principale nouveauté, c'est que vous observez que les pesticides de synthèse restent pendant très longtemps dans le miel.
Effectivement, on a en fait eu l'opportunité, étant donné qu'on avait déjà analysé ces composés en fait il y a quelques années, et ben de les réanalyser. Et puis on s'est rendu compte que effectivement il restait jusqu'à 40 mois en tout cas, donc plus de 3 ans dans les miels. C'est des substances qui sont effectivement extrêmement persistantes. Elles à moins 20 degrés et à température ambiante. Donc on avait gardé ces pots dans un congélateur et on les avait gardés aussi sur une étagère, on va dire, dans un buffet. Et puis dans les deux cas, la plupart des substances étaient stables, parfaitement stables. Et puis il y en avait 2 sur les 5 qu'on mesurait à l'époque qui, par contre, montraient une dégradation partielle en fait de la concentration. Entre 30 et 60%. Donc on peut dire qu'en règle générale, ce sont des substances qui sont particulièrement stables et vous n'allez pas avoir en fait une diminution progressive des concentrations dans une ruche, par exemple. Et donc les abeilles, elles vont subir les effets de ces composés dans le temps, au moment où elles ramènent en fait ces substances à travers le nectar et le miel dans la ruche.
Mais ça, c'est particulier au miel, parce qu'on sait que le miel se conserve très longtemps, donc c'est lié au miel ou ce serait aussi le cas avec d'autres substances?
Alors, je pense que c'est assez particulier au miel, mais il a aussi été démontré par d'autres études que ces substances, elles sont quand même particulièrement stables aussi dans d'autres types de matrices. Par exemple, dans le sol, certainement moins stable que dans le miel, qui est effectivement extrêmement stable, donc il va avoir tendance à garder les composés, on va dire, bien stable, mais dans le sol aussi, en fait, et dans les eaux, etc., on a aussi, en fait, une stabilité, une persistance de ces molécules, probablement pas de 3 ans et demi, mais de plusieurs mois, voire plusieurs années. Ce qui fait que ces substances, à la fin, se retrouvent un petit peu partout. Et c'est, la preuve, c'est que quand on analyse ces échantillons, on les retrouve, en fait, dans quasiment tous les échantillons.
Et en fait, le miel vous sert d'indicateur, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces substances sont présentes dans les abeilles elles-mêmes et peut-être même dans la nature plus largement.
Alors, ces substances, elles sont présentes dans la nature en général, effectivement. Si vous mesurez vos cheveux, si vous mesurez des sols, si vous mesurez des plumes d'oiseaux, si vous mesurez des miels, vous les retrouvez en fait à peu près partout. Donc, en fait, elles nous entourent, effectivement, à des doses qui sont faibles, très faibles, voire très faibles, mais elles sont partout.
Votre nouvelle méthode d'analyse permet de détecter des doses extraordinairement faibles, l'équivalent apparemment d'une pièce de 5 centimes dans une masse de 9 fois la tour Eiffel. Est-ce que malgré tout ça, on peut dire que ça a un effet ou parce que ça paraît négligeable pour le béotien?
Oui, pour vous donner une autre image, on est capable de mesurer une molécule parmi 100 milliards d'autres dans le miel. Donc c'est vraiment infinitésimal, effectivement, on est presque dans le domaine de l'homéopathie. Par contre, il y a des études qui ont démontré que ces substances, elles peuvent avoir un effet sur les insectes, en particulier les abeilles, à des doses qui sont de l'ordre de 1 molécule pour 10 milliards. Donc on est juste en dessous maintenant, on a réussi à atteindre ce seuil finalement, et c'était tout l'intérêt de notre étude, d'arriver à déterminer ces doses très faibles. Effectivement, il y a des effets pour les insectes à ces doses-là, ce qui n'est pas forcément le cas pour les êtres humains et les organismes supérieurs. Les êtres humains, et je tiens quand même à le préciser, sont moins affectés que les insectes par ces substances. Donc les effets en fait nocifs interviendraient à des doses beaucoup plus élevées.
La matinale, invité.
La présence des néonicotinoïdes dans le miel. Une étude de l'université de Neuchâtel, on en parle avec notre invité Gaëtan Glauser, son auteur principal. C'est une étude qui parle de la présence de ces substances dans le miel. Elle ne porte pas, à proprement parler, sur les effets que ça peut avoir sur les humains ou sur les insectes. Vous pouvez pas me dire, par exemple, si je dois arrêter de manger du miel?
Non, effectivement, et puis je vous dirais pas d'arrêter de manger du miel. La plupart des échantillons qu'on a analysés, la grande majorité, ont des doses de néonicotinoïdes effectivement inférieures aux limites admissibles pour la consommation humaine. On a analysé, je crois, maintenant 250 miels, je pense, et il n'y en avait un seul qui avait une dose admissible pour une des molécules qui était très légèrement supérieure aux normes établies. Et pour, dans tous les autres cas, on était à des doses inférieures. Donc je ne peux pas vous dire ne consommez pas de miel. Je peux que vous encourager à continuer à en consommer.
Mais au vu d'études comme la vôtre, il y a quand même pas mal de scientifiques qui s'intéressent à la question maintenant. Est-ce que justement ces seuils limites, ces doses, il ne faudrait pas les revoir ?
Alors on peut les revoir, elles sont régulièrement revues. Là, on touche à un domaine un peu plus compliqué. C'est des limites qui ont été établies de manière arbitraire dans un sens. Donc elles ne sont pas le fruit d'études toxicologiques sur l'être humain. Mais c'est des doses qui ont été considérées comme étant réellement sûres pour la santé. Elles sont parfois augmentées, parfois diminuées. Nous, ce qu'on voit dans nos études, on s'intéresse pas, entre guillemets, dans nos études à l'être humain, on s'intéresse aux insectes. Et ce qu'on voit, c'est que ces doses-là, par contre, elles sont nuisibles aux insectes. Après, parler au niveau de l'être humain, c'est moins mon sujet, on va dire.
Mais on connaît le risque sur les insectes et les alertes qu'on lance quant à leur potentielle disparition.
Alors là, effectivement, il y a certainement un lien qui est difficile aussi à prouver. C'est des études qui sont très longues, très compliquées, parce qu'on ne parle pas d'effets directs, on ne va pas immédiatement tuer les insectes avec ces doses-là. C'est ce qu'on appelle des effets sublétaux qui sont plutôt chroniques à long terme et qui finalement finissent par affecter, par exemple, la reproduction des abeilles, leur système immunitaire, etc. Et qui finalement jouent un rôle sur les effectifs. Or là, il y a certainement un lien. Ces molécules ne sont pas non plus la seule cause de la disparition des insectes, hein, qu'on soit bien clair. Mais il y a une composante là-dessus, effectivement. Et puis, il y a un rôle à jouer de légiférer là-dessus à un certain moment.
Alors, justement, si tu es au milieu d'un vaste débat, la mort des insectes d'un côté, certains appellent à l'interdiction des pesticides de synthèse, quel peut être le rôle du scientifique là au milieu ?
Alors, de nouveau, c'est une question très large et assez difficile à répondre, mais le rôle du scientifique, c'est de démontrer des faits, c'est de montrer en fait les effets nocifs, de continuer de faire des études pour démontrer les effets nocifs de ces substances sur la biodiversité. Il y a une étude récente qui a montré une diminution de 75% de la population d'insectes volants en Allemagne sur les 30 dernières années. Des causes multifactorielles pour y répondre, mais une partie inexpliquée qui peut être due effectivement aux pesticides. Il n'y a même pas de preuves directes, on n'arrive pas à montrer directement. Si vous parlez de fractionnement des habitats, par exemple, de déforestation, là c'est clair, vous enlevez les arbres, il n'y a plus d'insectes, on est d'accord. Pour les pesticides, c'est plus compliqué avec les pesticides, mais il y a certainement, ils ont certainement un rôle majeur à jouer. Et voilà, à un moment donné, eh bien, il faut quand même s'en rendre compte. Et nous, on est là vraiment pour montrer scientifiquement les effets que ça peut avoir avec toutes les difficultés que ça implique au niveau des études.
Gaëtan Glauser, vous êtes responsable de la plateforme neuchâteloise de chimie analytique de l'Université Neuchâtel. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne
Merci
journée.
À vous. Au revoir. Nouveauté.